France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La culture équestre, 16e, 19e.
Sans aucun doute, c'est un homme qui monte un bouton d'or. À moins que ce soit un fromage qui marche tout seul.
Dites-moi de quoi vous riez, monsieur, et nous pourrons rire ensemble.
Si vous étiez gentilhomme, c'est à vous que je m'adresserais. Je faisais seulement allusion à vous.
Continuez à rire, maintenant. Oh, garde
oh. Ces paysans.
On lui coupe la gorge?
Non. Remettez-le maintenant sur son cheval ridicule et qu'il parte.
Autant de D'Artagnan en a reconnu les trois mousquetaires, le cheval ne sert pas qu'à tirer une charrue ou à raccourcir les distances, il permet d'identifier qui le possède. Selon qu'on sait ou non bien monter, on est d'un côté ou de l'autre de la société, ou bien manant et ridicule, ou bien centaure admiré, moitié animal, moitié aristocrate. La Révolution n'a fait que suspendre ce système de représentation qu'incarnait au plus haut point le roi. Mieux, la culture équestre d'avant 89 va connaître son apogée au 19e siècle. Un monde peut être achevé sans disparaître. Les manières privilégiées de l'équitation demeurent, croissent et anoblissent dans une société qui est censée ne plus connaître le privilège. En ce début du 21e siècle, le monde du cheval, bouleversé, féminisé, a fini par se démocratiser, mais l'équitation de tradition française est encore assez vive pour arracher, en décembre 2011, son inscription, on ne l'a pas su assez, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Daniel Roche, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun, et merci de votre accueil.
Professeur émérite au Collège de France, titulaire longtemps de la chaire d'Histoire de la France des Lumières, et puis surtout, parce que vous aimez bien le travail intellectuel collectif, animateur d'un séminaire que vous avez consacré assez souvent et assez longtemps à la culture équestre. Et le deuxième tome de votre culture équestre paraît chez Fayard. Après le cheval moteur, c'est aujourd'hui la gloire,
la gloire et la puissance. Pour ne pas dire le cheval politique et social.
Oui, c'est une histoire sociale du cheval que vous tentez.
C'est une histoire sociale dans la mesure où elle ne s'inscrit pas comme pure histoire des représentations, mais comme justement moyen d'analyser un type de représentation assez permanent dans sa variation dans le temps, de l'Ancien Régime à notre société. Mais je m'arrête en 1914 parce qu'il y a là eu une rupture énorme.
11 millions de chevaux morts. Ça sera notre terme aussi. Et puis nous, on va commencer, comme vous, au XVIe, XVIIe siècle, on entendait un écho des trois mousquetaires. Les nobles étaient censés être nés du cheval. C'est le cheval, plus que la particule, et beaucoup mieux que la particule, qui définit le noble. Et puis vient un moment où les nobles sont ceux que le roi considère comme tels. Alors, le roi va devenir celui qui rassemble tous les usages équestres en sa personne et en son corps.
Alors la noblesse a la possibilité de revendiquer pendant plusieurs siècles ses origines chevaleresques et effectivement ses origines chevaleresques étaient directement liées à la possession extrêmement coûteuse dans les années de la formation de la féodalité du cheval, des chevaux pour la guerre. La transformation sociale décisive qui a été la centralisation des pouvoirs par une monarchie efficace, administrative et bien installée a évidemment entraîné de grandes transformations au sein de cette noblesse sans que les usages et le rapport aux chevaux aient été transformés.
Le roi, on le représente bien souvent en tenue majestueuse devant son trône, mais dans la statuaire, à cheval.
Alors, le roi cavalier est un roi cavalier par héritage des usages et plus particulièrement du commandement spirituel, mais aussi ce qui est un héritage religieux. Il y a toute une représentation symbolique des empereurs et des grands personnages liés à cette fonction d'autorité spirituelle du prince, mais aussi à son rôle militaire et à son rôle de chef de guerre. Simplement, dans les temps modernes, la capacité du roi à être sur le champ de bataille prend une distance dans l'intervention par rapport à la fin de l'époque médiévale et jusqu'au XVIe siècle. N'oublions jamais, Henri IV était continuellement à cheval et le prince risquait sa vie sur le champ de bataille. Ça a duré longtemps, mais progressivement, un écart s'est creusé.
Alors, il y a le roi de guerre, il y a le roi écuyer, il y a le roi chasseur. Alors, vous parlez d'Henri IV. Vous savez que c'est très dangereux aussi de chasser, parce qu'on peut tomber de cheval, même si on est roi. Ça vous est arrivé, vous, de tomber de cheval ?
Au plus souvent qu'Henri IV, sûrement.
Oui. Et puis, on peut être le gibier de la chasse. Voici une séquence de la reine Margot, selon Jean Dreville, en 1954. La bonne Margot est inquiète du départ d'une chasse qui va réunir Henri de Navarre et Charles IX.
Sire, ma sangle est un peu lâche. Vous feriez-vous la grâce ?
Mais certainement.
Je vous cherche depuis hier. Écoutez-moi, n'ayez pas l'air surpris. Anjou vous a trahi. Pendant la chasse, ne vous éloignez pas du roi. Ne le quittez pas d'un sabot de cheval, sinon vous êtes un homme mort.
Sans Dieu. Mais il faut prévenir.
Attention.
Vous êtes monté en chasseur de daims, monsieur. Vous savez cependant que c'est une chasse au vol que nous faisons aujourd'hui. Morvel, ne le quittez pas des yeux. Dès qu'il s'éloignera, vous le suivrez avec les hommes. Quand vous aurez débûché le gros des conjurés, faites sonner la lalie. Nous vous rejoindrons avec la chasse pour la curer. En route, messieurs ! Chassons du gros gibier aujourd'hui.
Ça n'est pas bien de tendre des pièges comme ça aux cavaliers, parce que à la chasse, rien de bas ne doit se faire.
Oui, c'est une des fonctions essentielles du roi monarque que de représenter le pouvoir en action dans les entreprises cynégétiques. Ce qui veut dire plusieurs choses. Premièrement, ça suppose un entretien particulier à un système particulier d'équitation qui est l'équitation libre et avec le galop à toute vitesse dans les situations les plus diverses, un entretien de chiens et d'un personnel tout à fait spécialisé et une représentation symbolique qui est afférente à ces usages et qui met en valeur l'incarnation en quelque sorte du prince par rapport à son territoire, par rapport au territoire qu'il dirige. Alors la fonction du roi chasseur a varié selon la personnalité des monarques. La plupart des Bourbons ont été des chasseurs, avec des variations dans les comportements. Louis XIII aimait beaucoup la chasse au vol avec les faucons, qui n'utilise le cheval que comme moyen de transport. Mais Louis XIV était un très grand chasseur, tous ses enfants ont été des grands chasseurs. Et Louis XV a été aussi un chasseur un peu moins que son grand-père, enfin que son aïeul. Louis XVI a été un chasseur terrible, ce que l'histoire politique ne lui a jamais pardonné, puisque le soir du 14 juillet, il écrivait sur son agenda « rien », ce qui voulait dire qu'il n'avait rien pris à la chasse.
Mais c'est aussi parce que dans les mémoires d'outre-tombe, il y a une scène fameuse où Chateaubriand, qui a été présenté au roi, n'a peut-être pas brillé à pied, concurrence le roi quasiment à cheval.
Alors, nous sommes, avec Chateaubriand, nous sommes exactement au cœur de la manière dont une certaine noblesse se représente en quelque sorte le rôle de la chasse dans ses pratiques quotidiennes, parce que le jeune Chateaubriand a pris le contact du cheval de façon tout à fait ordinaire dans les forêts de son père en Bretagne. Il n'a pris aucune leçon d'équitation. Mais quand il arrive à Versailles pour être présenté à la cour, il a dans sa poche Xénophon dont il entreprend la lecture. Et le soir, il va au manège pour apprendre à bien se comporter dans la manière de se tenir à cheval pendant ce qui va être une épreuve considérable, parce que la présentation exige que l'on suive la chasse du roi sur n'importe quel cheval que l'on vous donne. Alors on lui a donné une espèce de bête apparemment rétive, mais je soupçonne l'écrivain d'avoir quelque peu enjolivé l'événement parce qu'il se conduit très très bien, il lui arrive de dépasser le roi, ce qui est rigoureusement interdit et ce qui se serait vraisemblablement peu fait, mais il en tire toute une gloire et cette gloire n'est pas celle que l'on attend dans le système curial des usages que la chasse permet d'avoir avec le roi. c'est une leçon de modestie, c'est-à-dire il ne répond pas à l'invitation de ce bon Louis XVI d'aller lui rendre la monnaie de la pièce, en quelque sorte.
Vous parlez de
Xénophon. Il ne profite pas de cet avantage.
Xénophon dans les poches de Chateaubriand, les livres d'éducation équestre sont peut-être davantage préférés par les rois. Le petit Louis XIII avait un médecin qui le suit dans sa jeunesse, y compris quand il chasse, et qui montre comment il rencontre Pluvinel, qui est un des grands auteurs des traités équestres dont vous faites l'analyse.
Alors là,
auteur du manège royal.
Nous sommes au cœur là de qu'est-ce que c'est qu'une culture en quelque sorte, parce que pour transmettre quelque chose d'aussi important que cette tradition du rapport au cheval depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au 19e, il y a eu deux grands moyens. Le premier moyen, c'est avec l'usage de l'imprimerie, la diffusion des grands traités d'équitation qui sont à l'origine majoritairement italiens dans le premier temps du 15e au 16e siècle et qui après passent en quelque sorte dans le domaine de la prédominance culturelle française. Le premier grand nom que l'on tient dans ce développement de la culture typographique des chevaux, c'est effectivement Pluvinel. Pluvinel, dont Brantôme disait qu'il était beaucoup plus bête que ses chevaux, ce qui est complètement exagéré, parce que c'était quelqu'un de très malin et qui a su se placer dans la hiérarchie courtisane, a cependant rédigé dans son livre dédié au roi Louis XIII, puisqu'il a été l'éducateur privilégié de Louis XIII, ce que doit être en quelque sorte l'apprentissage de l'équitation dans la formation du roi et dans la définition d'une politique.
Il ne suffit pas d'être bonhomme de cheval, il faut être belle. Le roi écuyer, le roi chasseur, le roi à la tête d'une cavalerie organise à partir de 1665 les Ara. Et puis, il y a dans le dispositif autour du souverain un lieu très important. Ce sont les écuries qui sont monumentales dans leur architecture et dont le coût, à la fin de la monarchie, on est sous Louis XVI, dans le téléfilm de Thierry Benesti, paraît excessif au ministre Necker.
Quoique la guerre d'Amérique soit une bonne cause, il ne faudrait pas qu'elle devienne l'arbre qui cache la forêt. Il faut, sire, réduire encore et encore le train de la maison du roi. C'est le prix si nous voulons imposer des économies à l'ensemble de vos courtisans et des princes de sang. Figurez-vous que lors de son dernier voyage, et ce n'est là qu'un exemple, monsieur a fait mettre à sa disposition 160 chevaux. Est-ce là bien utile pour une visite d'ordre privé? Mais quand vos écuries comptent plus de 2000 chevaux, comment imposer des économies ailleurs? Dites-le-moi.
Pour les dépenses qui tiennent à notre personne et au faste de notre cour, en faire le sacrifice ne me coûtera rien. Dès lors que cela servira au soulagement de mes sujets, je vous l'ai déjà dit.
Oui, mais pour indispensable que soient ces économies, ce ne serait qu'une goutte d'eau.
L'homme qui ne voulait pas être roi, c'est le titre du téléfilm de Benesti. Louis XVI ne résiste pas assez contre les économies qui vont être imposées et vont avoir lieu à ses écuries. D'autant que monsieur, le comte de Provence, le futur Louis XVIII, et surtout le frère numéro 2, le comte d'Artois, le futur Charles X, font eux des dépenses mirobolantes en matière de cheval.
Là, nous avons un affrontement entre deux cultures. D'un côté, un protestant banquier et de l'autre côté, un roi héritier de la grande tradition catholique et de la tradition des rois cavaliers et chasseurs. Ses frères ne sont le futur Louis XVIII, le comte de Provence, n'est pas un grand cavalier, mais D'Artois est un fou. D'Artois est un fou de femme, un fou de chasse et un fou de course. Il s'est totalement ruiné en empruntant à la monarchie et à la banque et aux banques diverses pour avoir des écuries de course. Alors effectivement, le directeur des finances a essayé de faire des économies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la veille de la Révolution française, il y avait dans les écuries de Versailles à peu près 3000 chevaux. Et il a réussi péniblement à les ramener autour de 2000-2500. Mais c'est comme si vous vouliez dire on va supprimer toutes les voitures dans tous les ministères. Le cheval de la cour est un cheval qui, au sommet, est un cheval de représentation, dont la présence dans la grande écurie est d'illustrer l'art équestre avec les écuyers et la formation des pages et la formation des familles. Mais à la base, ce sont de multiples chevaux qui traînent des voitures, qui entraînent des carrosses et qui permettent à quantité d'individus d'assurer le transport des hommes comme le transport des courriers. Donc les économies étaient nécessaires sans doute, mais ils entraînaient immédiatement un recul du revenu dans une partie de la population et un recul de la masse salariale.
Alors ceci dans beaucoup de cours d'Europe, celle d'Angleterre se distingue peut-être par exemple à celle de Madrid où est attaché Domenico Scarlatti, sa fameuse sonate que chez le 96 en ré majeur dite de la chasse. Piano Daniel Laval, sonate que vous commentez d'ailleurs dans votre deuxième volume chez Fayard, Daniel Roche, de l'histoire de la culture équestre.
Elle est belle parce que ce dernier mouvement illustre à la fois la présence de la chasse dans une culture musicale plus générale, parce qu'il n'est pas le seul, parce que Scarlatti n'a pas été le seul musicien à replacer des airs de chasse ou à utiliser des moments de la chasse, mais aussi parce qu'il y a dans les manières d'accorder les différents moments de la sonate du clavecin une sorte d'entraînement qui évoque très bien ce rassemblement des chevaux avant le départ, avant une sorte d'élan. Mais bon, c'est une manière de lire ce qu'on entend.
L'aboiement des chiens, et peut-être derrière le piano, le son du corps, qui sait. Alors pendant la Révolution, le trône est vide. Les gravures d'ailleurs représentent aussi les socles vides également des anciennes statues équestres des rois. Mais Napoléon vient.
Vous ne descendez donc jamais de votre cheval, sire ?
C'est arrivé de dormir en selle, pour avoir fait à cheval à peu près tout ce qu'un homme peut faire, excepté l'amour. Mais je ne désespère pas d'y parvenir un jour.
Voilà qui est parfait, sire. Parfait. C'est excellent. Ce cheval était fait pour vous, Majesté. Si la reine de Prusse vous voyait maintenant, elle serait forcée de réviser son jugement.
Pourquoi ? Qu'a dit la reine de Prusse ?
Cette femme, sire, plutôt cette harpie, n'arrête pas de répéter à qui veut l'entendre que votre Majesté, ce petit monsieur Bonaparte, et là je ne fais qu'utiliser son langage, n'est qu'un monstre sorti de la forme. Elle a ajouté qu'il était inutile d'employer les sabres pour battre les Français. Des gourdins suffiraient.
Ainsi, je suis un monstre à la tête d'un peuple de chiens.
C'est à cette époque 1806 où la reine Louise commence à ruminer sa revanche que Hegel, que vous citez, Daniel Roche, dit « J'ai vu l'empereur au retour de Iéna, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. »
Hegel a très bien senti ce qu'il y avait d'important dans ce que j'essaye de rassembler autour de la culture politique de l'équitation, c'est comment le corps du monarque incarne toute la force et toutes les capacités de la puissance qui sont nécessaires au pouvoir et à son extension. Ceci étant, on peut peut-être penser que Napoléon est un aboutissement plutôt qu'un point de départ dans ce domaine-là, puisque aucun autre monarque en Europe n'aura plus désormais la possibilité d'affirmer de la même manière cette extraordinaire alliance de l'art équestre, de la grâce et de la puissance comme on peut essayer de le démontrer. Par ailleurs, c'est une question que tout le monde pose, était-il un bon ou un mauvais cavalier? En réalité, je crois qu'il n'aimait pas les chevaux, mais qu'il les utilisait avec une virtuosité absolument extraordinaire, parce que c'était un moyen de se calmer, c'était un excité du pouvoir et un excité d'un tas de choses, et il lui arrivait de faire des galopades de 30 km par jour. Quand il était au camp de Boulogne, il disparaissait comme ça avec un ou deux aides de camp, et tout le monde était très effrayé, parce que, quoi qu'on en dise, parce qu'on n'en parle jamais, les rois tombent, comme les cavaliers ordinaires.
Comme vous.
Comme moi. Mais ils tombent, mais on ne doit pas en parler. C'est un...
Il était dans la continuité du XVIIIe siècle quand, lecteur de Guibert, des théoriciens de la révolution militaire, il faisait une place grandissante à la cavalerie parce que la cavalerie avait assez de mobilité pour créer et saisir les opportunités.
Alors c'est le grand utilisateur de la transformation tactique et stratégique de l'art cavalier dans le domaine militaire au terme de la révolution militaire. La révolution militaire, c'est ce que les historiens de l'armée ont l'habitude de désigner. C'est ce grand mouvement qui a commencé au XVIe siècle et qui a transformé tous les aspects de l'art militaire. En quelque sorte, en ce qui nous concerne ici pour la cavalerie, ça met en cause plusieurs choses. Premièrement, ce qui se passe, c'est l'extension extraordinaire du nombre des hommes et des produits à transporter. Donc, la première grande transformation, c'est l'accroissement du nombre des chevaux et des carrioles. Deuxièmement, c'est l'espace. L'espace conquis qui s'étend et l'espace du commandement qui s'étend. Donc, deuxième grande transformation, c'est la nécessité du renseignement. Et enfin, c'est une transformation tactique que Napoléon a su harmoniser d'une manière absolument extraordinaire. C'est bien pour cela qu'il a laissé dans ce domaine une marque absolument sans concurrent. C'est l'utilisation dans la grande manœuvre napoléonienne du débordement par la cavalerie et au moment opportun du renforcement au centre de toutes ses forces pour écraser l'adversaire. Et là, la bataille de Iéna qui avait précédé l'entrée de Napoléon qu'évoque Hegel est la plus belle démonstration de cette capacité tactique et stratégique de l'empereur.
On est déçu que vous disiez qu'il n'aimait pas les chevaux, alors que vous partez à la recherche du légendaire Marengo qu'a représenté David et qui fait l'objet de beaucoup de contes. Mais ce ne sont pas des... Ce n'est pas les chevaux de Napoléon qu'on va parler maintenant, mais des chevaux du capitaine Coignet. L'Empire est fini. Coignet, capitaine au long cours des campagnes impériales, premier décoré peut-être de la Légion d'honneur, n'est plus qu'un demi-solde. Il faut se séparer de ses bêtes. C'est difficile de se séparer de ses chevaux.
Oui, d'autant que Coignet a toujours vécu avec des chevaux. Oui. Il les a élevés quand il était jeune, apprenti laboureur dans la brie, et après dans la garde, quand il est devenu officier, il s'en est toujours occupé.
Alors vous avez vendu vos chevaux du côté de Sault, du côté de Vaison-la-Romaine. Coignet va les vendre à Dijon, où cantonne un régiment de cavalerie de la nouvelle armée, l'armée de Louis XVIII. Le voici revenu.
Dès mon arrivée à Dijon, je vendais bon prix mon cheval de porte-manteau à un gros major qui n'y connaissait rien. Mais à 11h, j'avais affaire avec le commandant du 60e qui était amateur.
Oui, évidemment, c'est un beau cheval. Dressé?
Oui, commandant.
Combien?
C'est un escalier de pierre qui mène à la grande salle.
Que voulez-vous dire?
Vous me demandez le prix de mon cheval. Je vous demande si c'est un escalier de pierre qui mène à la grande salle.
Oui, pourquoi?
Parce que je vous vendrai mon cheval monté par moi dans la grande salle. Et vous me le paierez 1200 francs. Moyennant quoi, je vous le donnerai bride en main.
Parfois, je suis curieux de voir cela.
Permettez.
Allez-y.
Messieurs, ce cheval est à vous.
Voilà le commandant. Issu de la vieille aristocratie, l'homme de Louis XVIII et l'homme de l'Empire, au fond, partagent les mêmes valeurs, le cheval qui fait l'aristocratie. Et cette aristocratie se reconstitue sur de nouvelles bases après Napoléon, tout au long du XIXe siècle. Et c'est l'apogée de la culture aristocratique du cheval quand le privilège n'a plus valeur légale.
La société censitaire telle qu'elle s'établit avec le retour des Bourbons peut largement accueillir les deux grands mouvements qui entraînent la culture équestre dans ce début du 19e. Le premier, c'est la transformation de cette culture elle-même par l'élargissement de l'Europe des nobles par l'émigration à l'ensemble des autres cultures. Ils ont rencontré la culture anglaise, ils ont même, quand ils ont été jusqu'à la Russie ou dans d'autres pays plus orientaux, fait connaissance avec quelque chose qui était pour eux beaucoup plus étranger, qui était les images de l'Orient, une image plus réelle. Ils ont découvert une image plus réelle de l'Orient et de ses chevaux. À ce premier mouvement, il y a un deuxième qu'il faut ajouter, c'est que la France n'est plus désormais une France dirigée et hiérarchisée par le privilège, mais une France qui est hiérarchisée par la possession, la propriété, c'est la France des propriétaires censitaires. Dans cette France des propriétaires censitaires, tous ceux qui aspiraient à être reconnus et distingués par les apparences et par les pratiques de l'ancienne noblesse peuvent désormais, selon leurs moyens, trouver une place. Et ce moyen, le plus général, c'est en quelque sorte, parfois, ça a été étudié dans beaucoup de départements français, de reconstituer une espèce de gentry à la britannique, ce que Denis, dans son étude sur la Mayenne, appelle l'Angleterre verte de la Mayenne, c'est-à-dire une société où les gens se retrouvent avec toute une sociabilité, où les chevaux sont au centre, par le spectacle des courses, par l'usage des voyages et de la mobilité, par un usage totalement quotidien, par les pratiques de l'élevage, très souvent. Donc on a là, pendant une cinquantaine d'années, une sorte de société de propriétaires dont la dernière manifestation se joue à Paris. C'est-à-dire, c'est un enjeu politique absolument extraordinaire. Cet enjeu politique est celui qui est toujours en quelque sorte brandi par l'armée, qui est celui de la nécessité d'entretenir le budget de la guerre, de l'augmenter au maximum, et dans ce budget de lui donner une forte proportion à la cavalerie, bien entendu. Et cette cavalerie va incarner, en dépit des transformations des régimes, de la Restauration à la monarchie de Juillet et au Second Empire, va incarner une sorte de patriotisme, en quelque sorte, de la pratique militaire qui doit avoir les moyens de ses besoins.
Coupure, 1914, c'est là que s'achève votre deuxième volume d'histoire de la culture équestre chez Fayard. Mais les traditions perdurent dans le milieu de la cavalerie qui veut se maintenir. Je sais que vous avez toujours eu quelques difficultés avec le cadre noir de Saumur, mais permettez quand même qu'on conclue, ou presque, avec lui.
Calme, en avant, droit et léger. Alors ça, c'est notre doctrine. Et pour l'équitation de tradition française, qui doit conduire à présenter un cheval en confiance et en telle harmonie avec son cavalier que on sortira du sport pour aller vers l'art.
À Fontainebleau, l'école nationale d'équitation reçoit la visite du colonel Pasco. Devant les personnalités, les instructeurs qui firent tous partie du cadre noir de Saumur exécutent quelques figures de manège. Les cabrioles. Changement de pied au temps. L'appuyer. Ainsi, l'école nationale de Fontainebleau s'applique à faire revivre et à perpétuer les traditions d'art équestre enseignées depuis 1680 à l'école de Versailles d'abord et à l'école de cavalerie de Saumur ensuite. Traditions qui ont rendu célèbre dans le monde entier le cadre noir.
Alors même au cadre noir, il y a quelques femmes. La féminisation transforme l'équitation. La violence a toujours été exclue de l'art équestre, au moins depuis la Renaissance, mais maintenant la douceur gagne.
Oui, la violence a été exclue, mais elle n'a pas été complètement éliminée. En particulier, il faut bien reporter la discipline, en quelque sorte, du cheval au milieu qu'il l'utilise. Donc là, il y a toute une autre optique à avoir. Mais la féminisation, alors ça, c'est peut-être éminemment souhaitable, un phénomène de démocratisation. Et un phénomène de démocratisation qui a été rêvé égalitairement mais qui se fait par genre. Et ce sont les filles qui sont en quelque sorte, qui ont en quelque sorte à entretenir cette culture qui était avant une culture de mâle.
Donc il faut que vous continuiez avec un tome 3 et un tome 4, La Grande Chevauchée, Faire de l'Histoire avec Daniel Roche. C'était notre objet aujourd'hui, c'est le titre d'un volume de Mélange, offert par vos élèves et publié par Drose. L'émission était préparée par Franck Olivard, Camille Poux-Jalaguier, Frédéric Martin, à la technique Alain Duclos, Defar Guéride à la réalisation Marie Casanova.